Nous allons voir maintenant comment le Seigneur Jésus-Christ a enseigné la fidélité. Il l'a enseigné, nous allons voir comment. Lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 35. Nous lirons jusqu'à 48 inclus. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs, que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Au verset 41, nous avons vu que Pierre demande une précision. Il demande au Seigneur ceci, « Est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» À nous, nous les apôtres, ou à tous les disciples que tu adresses cette parabole. L'exhortation à la vigilance s'adresse à tous les membres, c'est-à-dire les versets particulièrement 35 à 40. Cette incitation à la fidélité s'adresse donc à tous. Et tous, s'ils ont été fidèles dans la vigilance, en exerçant la vigilance, verront le maître à son arrivée les servir à table. Les servir à table. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Le maître se scindra, il mettra le tablier du serviteur et il fera asseoir ses disciples et il les servira. Mais l'économe fidèle et prudent que le maître aura établi sur ses gens, Ça, c'est au verset 42. Désigne nettement celui qui aura eu la charge d'un ministère, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, pour prendre la liste de Éphésiens 4, 11. Donc ici, au verset 42, c'est le « nous ». Pierre demande « est-ce à nous ou à tous ?» C'est à nous, c'est-à-dire non seulement aux apôtres contemporains du Seigneur, mais à tous les apôtres, puisque dans l'Église, il y aura toujours des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors, c'est à eux que s'adresse particulièrement le Seigneur dans ce verset 42. Nous notons une différence entre le verset 37 et le verset 42. 37, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra. Et puis alors, le verset 42, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le verset 37 intéresse tout membre de l'Église qui aura veillé avec persévérance. Sa récompense utilise en somme le retournement des rôles. C'est Jésus le maître qui sert à table et c'est le disciple lui qui est assis et se laisse servir par son maître. Ainsi, le lien d'amour dans l'égalité et l'humilité de tous est-il ainsi mis en évidence? C'est l'intention du Seigneur en nous disant cela. Hein. Ne voyons pas peut-être essentiellement, quoique cela puisse se faire, ce que dit le Seigneur s'accomplir littéralement, n'est-ce pas? Ne nous fixons pas uniquement sur cet accomplissement littéral, il peut très bien se faire, d'accord? Mais voyons-en l'idée, l'intention que le Seigneur a, et cette intention, c'est donc de mettre en évidence le lien d'amour dans l'égalité et l'humilité. Le maître se fait l'égal de tous, et le maître, lui, il est humble, humble et doux de cœur. Au verset 44, le serviteur que le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens, ce serviteur. L'économe qui aura montré sa fidélité, l'économe cette fois-ci, n'est-ce pas? Alors il s'agit, comme je l'ai rappelé il y a quelques minutes, il s'agit de celui qui a charge de ministère. Alors, l'économe qui aura montré sa fidélité et se sera appliqué à exercer son ministère avec sagesse et avec amour, recevra la responsabilité d'une gestion élargie des biens éternels dans le temps de la gloire. Alors là, nous n'avons pas de précision, bien sûr, les biens éternels, quels sont ces biens éternels? Ils sont considérables, nous voyons bien que le Seigneur nous les montre comme étant considérables, surtout par rapport aux biens actuels. Toutefois, le Seigneur Jésus envisage l'infidélité de ses serviteurs ou de ses économes, l'infidélité comme possible. Cela au verset 45 et 46. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Mon maître tarde à venir. Moi, j'ai toujours eu un frisson quand j'ai entendu des chrétiens, il y en a encore, qui disent, lorsque on fait allusion au retour du Seigneur Jésus, « Oh, bon, oui, mon frère, ça peut venir peut-être maintenant, ça peut venir aussi dans pas mal de dizaines d'années, dans des siècles. » Alors là, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter cela. Moi, je ne sais pas si vous le pouvez, moi, je ne le peux pas. Ça me cause un malaise terrible. Parce qu'alors, n'est-ce pas, si on dit cela, c'est qu'on n'attend pas. On est comme ce serviteur, là, n'est-ce pas, « Oh, mon maître tarde à venir. » Si on ne croit pas, si on n'est pas prêt à le recevoir maintenant, ce que le passage nous dit, n'est-ce pas, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Il faut être prêt, prêt à le recevoir. Mais si on dit, ça peut venir dans pas mal de décades ou même des siècles, hein, c'est que vraiment, hein, on est dans cette situation, mon maître tarde à venir. Et c'est excessivement dangereux, très dangereux. Donc, Jésus envisage l'infidélité comme possible. Et c'est déjà ça, si l'on dit « mon maître tarde à venir », c'est là, en somme, le point où l'infidélité se commence à se manifester. C'est la source de l'infidélité qui va alors se manifester dans les attitudes, dans le comportement. Ça, c'est donc l'économe qui n'a pas la fidélité dans le cœur, ni l'amour par conséquent. Parce que s'il avait l'amour, il ne parlerait pas ainsi. Et alors, cet économe traite durement ceux sur qui il a été établi. De plus, il se donne à lui-même le plaisir le plus bas. Il ne croit donc pas à l'éventualité imprévue du retour de son maître. Évidemment, traiter durement ceux sur qui il a été établi, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Hein, il est évident que ce sont là des images. Le Seigneur parle par images, là. Ne voyons pas les choses nécessairement, quoique ça pourrait très bien se faire, mais ne les voyons pas nécessairement sous le jour du sens littéral. Comprenons qu'il s'agit d'images. Le Seigneur parle beaucoup par des images. C'est un enseignement, là aussi, en forme de parabole. Alors, le châtiment de cet intendant infidèle, le châtiment, il le mettra en pièces. Et littéralement, dans le texte original, c'est « il le coupera en deux ». Il le coupera en deux. Ce qui désigne un terrible supplice en usage dans l'Antiquité et même encore au temps où Jésus était sur la terre. Ce supplice, nous en avons des traces dans, par exemple, 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 12 et verset 31. Chapitre 12, verset 31. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple, sous des scies. Alors nous comprenons pourquoi, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, il nous est parlé de gens qui ont été sciés. Ça correspond à ce supplice-là. Chapitre 11, alors c'est dans les versets... Les versets 36, mettons, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés. Vous comprenez que sciés, c'est-à-dire qu'ils passèrent donc sous ce supplice qui littéralement nous est désigné comme coupé en deux. Et puis, nous avons dans 1 Chronique 23, si je vous donne ces détails, c'est pour que, quand même, nous sachions pourquoi le Seigneur dit « il les mettra en pièces ». Il faut tout de même savoir ce que ça signifie. Alors, 1 Chronique chapitre 20 et verset 3, « il fit sortir les habitants et les mit en pièces », voyez-vous. Donc, c'est cette expression-là qu'a utilisée le Seigneur dans son avertissement du chapitre 12 de Luc. Il les mit en pièces avec des scies. On les coupe en deux carrément avec une scie. Matthieu, l'évangile de Matthieu, dit, lui, au chapitre 24, verset 51, « Il lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura... » des pleurs et des grincements de dents. Les hypocrites. Pourquoi les hypocrites? Luc dit sa part avec les infidèles. Eh bien, les hypocrites, car avoir la charge d'un ministère et ne pas lui apporter le dévouement sincère qu'il requiert, c'est avoir l'apparence d'un serviteur et non la réalité. Alors, chers amis, cela tout de même demande un peu de réflexion. Il faut s'arrêter une minute là-dessus. Prenons bien garde à ne pas nous laisser circonvenir par des gens qui viennent, la Bible sous le bras, comme on dit quelquefois, n'est-ce pas, qui parlent et qui prétendent enseigner. Hier encore, l'un de vous ici me parlait d'un tel homme qui n'est nulle part dans les assemblées, mais qui rôde tout autour et qui voit pas mal de chrétiens, qui les reçoit chez lui et qui délivre un enseignement faux, erroné, dangereux. Alors, que voulez-vous? Ça, c'est terrible. Cet homme-là, eh bien, il tombera sous le coup du châtiment dont nous parle ici le Seigneur Jésus. Mais nous, méfions-nous. On a répandu, par exemple, ces temps derniers, abondamment les livres, car il y en a plusieurs, d'une certaine Rebecca Brown, que l'on dit être docteur en médecine. On a répandu ces livres qui nous donnent... Je ne les ai pas lus, j'ai eu le premier en main, je n'ai même pas voulu l'ouvrir. J'ai bien senti ce que c'était, mais j'ai connu le contenu par un petit commentaire d'un de mes amis de Lausanne, Paul Rank. Je crois d'ailleurs que ça a été publié dans la Pentecôte, oui, dans la Pentecôte, oui. Eh bien, je viens de recevoir encore un autre document de Lausanne qui se fait l'écho d'une publication qui a paru aux États-Unis concernant cette Rebecca Brown, que l'on nous présente comme étant médecin, mais qui en réalité n'est plus médecin du tout parce qu'on lui a retiré sa licence. Et on lui a retiré sa licence parce que elle prescrivait je ne sais quelle préparation, je ne sais quelle spécialité dans laquelle il y avait une substance stupéfiante, un stupéfiant, et alors elle se droguait et elle droguait autour d'elle, n'est-ce pas? La licence lui a été retirée, il a même fallu que dans le pays où elle avait établi son cabinet de généraliste, il a fallu qu'elle s'enfuit de ce pays, tellement la population était exaspérée à son compte. Et toutes sortes de choses comme ça. Et voilà les gens dont on nous donne les écrits, qu'on nous présente comme une nourriture, mes chers amis. Moi, je ne sais pas, il y a des chrétiens qui se sont emballés là-dessus. Il y a même celui qui a payé les livres. Je sais qu'il les a payés, je suis bien placé pour savoir qu'il les a payés à l'éditeur, n'est-ce pas? Il est venu lui-même apporter le prix de l'impression de ses livres, et c'est un homme qui prêche l'évangile. Alors là, on est déconcerté, n'est-ce pas? On se dit, mais enfin, tout de même, ces gens-là sont aveugles, qu'est-ce qu'ils font? Ou alors, ils sont, de quel esprit sont-ils animés? Et le mal qu'ils font? Moi, je connais des chrétiens que je voyais il y a quelques années, que je ne vois plus maintenant, parce qu'ils ont été appâtés par cette littérature. Ils sont même allés à la rencontre, une rencontre qui avait été organisée avec la présence de Rebecca Brown, hein, non, vraiment, n'est-ce pas? Il n'y a pas de discernement. Alors, on cède à l'appât de ce qui est mystique, mystérieux, même si ce mysticisme a pour socle le terrain démoniaque, les ténèbres. Alors non, chers amis, mais enfin tout de même, sachons qu'il faut que nous prenions bien garde à nous. Alors, ensuite, après avoir parlé de ces châtiments qui intéressent donc les économes, c'est-à-dire les hommes qui auront eu la charge d'un ministère, alors là le Seigneur revient à ceux que Pierre avait désignés par tous. Jésus avait en somme été interrompu par Pierre au verset 40, au verset 41. Pierre ne laisse pas, vous savez, avec sa spontanéité, ne laisse pas le Seigneur terminer, il l'interrompt. Pierre lui dit, mais Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Alors, le Seigneur avait répondu, et puis, a répondu pour le nous, n'est-ce pas, pour les apôtres et par conséquent les ministères, et voilà maintenant qu'il fait un retour à tous les disciples, c'est-à-dire à tous les membres de l'Église. Et Jésus n'avait pas encore parlé du châtiment des disciples, alors des disciples membres de l'Église infidèles. Et tel est l'objet des versets 47 et 48. Ça ne concerne plus particulièrement les intendants, l'intendant, mais tous les membres. Verset 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Alors, là, ce serviteur est volontairement négligent. volontairement. Il aura connu. Alors celui-là, il sera battu d'un grand nombre de coups.
Il savait ce qu'il avait à faire, mais il s'en est abstenu. Faute
de conviction. Faute d'amour. Il s'est abstenu, il savait. C'est terrible, ça. Savoir et ne pas faire. Et ne pas faire dans l'Église, n'est-ce pas? C'est tout de même chose terrible. Il sera battu d'un grand nombre de coups. Je ne sais pas à quoi cela peut correspondre comme dans la réalité à venir. Je ne sais pas. Mais les apôtres qui ont entendu cela ont dû au début le prendre dans le sens littéral. Il s'est dit, bon, eh bien, l'infidèle, le membre d'église infidèle sera battu. Puis après, je pense que après la Pentecôte, ils ont dû comprendre plus exactement que c'était une image dont s'était servi le Seigneur. Et au verset 48, alors là c'est différent, il s'agit d'un disciple qui a fait des choses dignes de châtiment, mais il n'a pas connu la volonté de Dieu, celui-là. Alors le châtiment est moindre pour ce second disciple. Il lui manquait la connaissance de ce qu'aurait dû être son service. Et la conclusion à laquelle arrive le Seigneur est celle-ci. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le maître ne se contentera pas d'un peu. Certes, il demandera à chacun selon sa capacité, nous dit Matthieu 25. À chacun sa capacité, c'est Matthieu 25, oui, dans la parabole des talents, chacun sa capacité. Il demandera, évidemment, en fonction, donc, des moyens que l'on avait à sa disposition. Rappelons-nous Marie, sœur de Lazare, qui était au pied du Seigneur et qui apporte un vase rempli d'un parfum de nard, un vase d'albâtre. Elle casse le col de ce vase et puis elle répand cela sur la tête et les pieds du Seigneur, et toute la maison est embaumée. Bon, et le Seigneur dit, mais ne critiquez pas, ne n'ayez pas de jugement contre cette femme. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu, et ce qu'elle a pu, c'était très bien, ne pouvait pas plus, elle a fait cela. Donc, là, il y aura une proportion qui s'établira entre la capacité, ou ce qui aura été reçu, ce qui aura été donné à chacun, et puis le fruit qu'il aura porté. Mais le Seigneur ne va pas se contenter d'un peu de fruits là où il aurait pu y en avoir bien davantage. Dans Jean 15, 8, le Seigneur nous dit la parabole de la vigne. Le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc le Seigneur veut qu'on porte beaucoup de fruits par le moyen de son esprit. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur le commentaire de cet enseignement du Seigneur Jésus, mais vous voyez qu'il s'agit là d'un enseignement sur la fidélité. La fidélité essentiellement dans ce que nous pouvons appeler la vigilance. Maintenant, lisons dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà, ce verset nous intéresse puisqu'il considère la justice, la miséricorde et la fidélité comme ce qui est le plus important dans l'enseignement délivré. Ces gens à qui le Seigneur s'adresse tout d'abord, maintenant il s'adresse à tous, à toute l'Église, mais enfin, les premiers à écouter cela, les contemporains de Jésus, observaient d'une façon scrupuleuse la dîme des moindres productions. Vous savez, c'est pas difficile d'avoir dans son jardin pas mal de menthe. Il faut même souvent la limiter parce que ça a des racines qui courent et qui se propagent partout dans le jardin. La menthe, la nette, la même chose, et le cumin, ce sont des plantes qui demandent pas tellement de soins et qui se propagent elles-mêmes. Par conséquent, donner le dixième de cette production-là ou de ces productions-là, ça n'est vraiment pas faire acte d'une grande libéralité. Donc, il faut même en retirer plus qu'un dixième pour ne pas être envahi. Alors, ces gens, donc, étaient scrupuleux pour donner la dixième partie de ses petites productions, mais par contre, il faisait preuve de négligence à l'égard des prescriptions fondamentales de la loi, et il faisait preuve d'ignorance concernant l'esprit de ces prescriptions. Non seulement ils étaient négligents à l'égard du sens direct que ces prescriptions avaient dans la loi, mais en plus, l'esprit de ces prescriptions leur échappait. En effet, nous pouvons lire dans Matthieu 15, Matthieu chapitre 15, verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Voilà, je ne vais pas plus loin. Vous voyez, n'est-ce pas, comme Jésus dénonce cette hypocrisie chez ces gens, parce qu'ils trouvent toujours un biais, une petite raison attachée à la lettre, pour ne pas, en réalité, vraiment observer le commandement. Et ils y substituent leurs traditions, les traditions qu'ils ont eux-mêmes conçus. Toujours la même chose, n'est-ce pas? Nous sommes toujours devant le même grave problème. L'homme conçoit, et ce qu'il conçoit, il veut le mettre à la place de ce que lui demande la parole de Dieu. Toujours ça, et maintenant c'est la même chose, c'est l'offrande de Caïn, ça. Caïn dit, Seigneur, voilà, j'ai eu dans ma culture, dans mon champ, j'ai obtenu ces beaux fruits. Il en était lui-même étonné de voir que la terre pouvait produire de si bonnes choses. Alors tiens, je t'offre ça. J'offre ça, tu vois, mon travail. Voilà, n'est-ce pas, voilà, en somme, l'intelligence que j'ai mise dans ce travail. Voilà mon travail, voilà mon intelligence, voilà mon œuvre, Seigneur. Alors je te l'offre. Et puis le Seigneur n'en veut pas. Regarde, d'un autre côté, il se détourne de cette offrande qui lui est désagréable, qui lui déplaît, qui est une offense même. Alors, Caïn n'est pas content. Il n'est pas content de ça. Surtout que, alors, le regard de Dieu se porte vers l'offrande de son frère Abel. Alors, il n'est pas content, il est irrité, hein. Il voulait absolument que Dieu accepte l'offrande qui était constituée par des choses qu'il avait lui-même faites, des choses qu'il avait choisies. C'est lui qui avait décidé de la nature de l'offrande. C'est lui qui avait fait même la nature même, l'offrande elle-même. C'est lui qui en était l'auteur, et cela, il fallait que Dieu l'accepte. Aujourd'hui, c'est ça. Nous avons cette déformation dans nos milieux aussi. Nous avons cette déformation-là. Attention! Attention! On veut absolument faire accepter à Dieu ce que on décide soi-même être le mieux. Voilà, le mieux, ce qu'il faut faire. Et dans cela, on se glorifie. On se glorifie. Toujours. Et ça, nous avons dans notre milieu évangélique ce défaut. Il se présente sous des formes différentes, variées peut-être, mais il est là. Alors attention à cela, de ne pas tomber dans un pareil piège. Le Seigneur ne veut recevoir, entendons le bien, que ce qu'il nous demande. Qu'avons-nous à t'apporter, dira David, que nous n'ayons reçu de toi, Seigneur. Voilà, la bonne règle. Hein. Ah, mais, tu sais, nous avons des moyens aujourd'hui, en musique, et puis il y a ceci, il y a cela, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas préciser, parce que j'entrerai peut-être dans la critique. Non, laissons ça de côté, mais enfin, je veux surtout bien préciser ce mal que nous déplorons dans nos propres milieux. Dieu voit dans le secret. Dieu regarde dans le secret. Et attention, il voit bien, n'est-ce pas, dans nos cœurs, ce qu'il y a. Oh, cette pointe de satisfaction personnelle, cette pointe d'orgueil, la pensée qui nous a poussé à faire telle et telle chose et à prétendre offrir à Dieu une offrande qu'il n'a jamais demandée, dont il ne veut pas, eh bien, cela, le Seigneur le voit dans le secret. C'est une pratique sincère, exacte, de la justice que Dieu veut. La justice. Il y aurait beaucoup à dire sur la justice. Chers amis, je vous conseille de bien réfléchir à ce qu'est la justice. Beaucoup ne le savent pas. La justice est avant tout le grand ordre universel sur lequel s'établit le règne de Dieu. Et il faut que tout revienne à la justice. L'amour de Dieu, c'est de tout ramener à la justice. Sans quoi il n'aurait pas donné son fils pour qu'il meure sur une croix s'il n'avait pas été question de satisfaire la justice. L'amour satisfait la justice de Dieu. Donc c'est une pratique sincère de la justice que Dieu veut, de l'esprit de miséricorde. Le plus important, dit le Seigneur Jésus, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et dans le fond, la pratique sincère de la justice, la pratique de la miséricorde, qui est en corrélation avec la pratique de la justice. Justice et miséricorde, on ne peut pas pratiquer la justice sans esprit de miséricorde. Ce n'est pas possible. Donc, cette pratique de la justice dans l'esprit de la miséricorde, mais c'est cela qui se nomme fidélité. C'est cela, nous y sommes en plein dans la fidélité. Par conséquent, le plus important, la justice, la miséricorde, la fidélité, voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 25. Matthieu 25. et verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et puis au verset 23, j'en ai gagné deux autres, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Nous avons là la comparution des serviteurs auxquels, au moment où le maître s'en allait, il avait remis à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à un troisième encore 1 talent. N'est-ce pas ? C'est la parabole des talents. Et je ne prends que cela, cette parole du maître à son retour. Celui qui a eu 5 talents en a gagné 5 autres, il apporte donc 10 talents. Seigneur, voilà, tu vois, tu m'avais donné 5, je les fais valoir, j'ai fait valoir ces talents, en voici 5 autres. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Pourrait peut-être s'attendre, pas, tu as été fidèle en... magnifiquement fidèle en beaucoup de choses. Ta fidélité a été éclatante. Elle a été éclatante, mais elle s'est exercée sur un tout petit domaine. Alors, pour l'autre serviteur, celui qui a gagné simplement 2 talents parce qu'il n'en avait reçu que 2, alors lui aussi, il entend la même parole, exactement la même parole. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. La vraie fidélité ne consiste donc pas d'abord, il faut le remarquer, consiste pas à attendre passivement le retour du maître, mais à bien garder le dépôt qu'il nous a confié à chacun. Si nous sommes membres de l'Église, nous avons reçu un dépôt. Le serviteur qui n'a reçu qu'un talent, lui, il est allé le cacher, il l'a gardé très honnêtement, il ne l'a pas dépensé, il l'a gardé honnêtement, mais l'honnêteté n'est pas une vertu dynamique, n'est pas une vertu à apprécier, ça. Ben, c'est normal qu'on soit honnête, pas une vertu, ça. Ça n'a rien pour attirer vraiment les félicitations, en tout cas, ben, ça ne correspond qu'à de l'inertie. La fidélité, en l'occurrence, consistait à faire valoir les biens du maître. Le serviteur méchant, c'est lui l'infidèle. Il est infidèle, il est honnête, mais ça ne signifie rien, il est infidèle. Ce qu'il avait reçu du maître, on va le lui ôter, dit la parabole. Alors, quels sont les biens, n'est-ce pas ? Au début de la parabole, il nous est dit que le maître, un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Il leur remit ses biens. Quels sont ces biens ? Les biens que le maître a remis à ses serviteurs pour les faire valoir. Ah, voyons bien, d'ailleurs l'expression « faire valoir », nous la trouvons dans la parabole des mines, dans l'évangile de Luc. Ces biens, que sont-ils ? Calvin s'est encore là, à mon avis, fourvoyé. Je l'ai déjà signalé qu'il s'était trompé quant à la prédestination, là, il se trompe aussi. Et Calvin dit que ce sont les dons naturels et les dons du Saint-Esprit. Puis alors, on entend souvent ça, on voit même ça dans des livres, dans des commentaires. Mais non, je vous en prie. Nous allons voir, c'est pas ça, c'est pas les dons du Saint-Esprit. Bon, laissons-les, ils ont leur existence et leur utilité. Mais c'est pas ça, c'est pas eux qui constituent des biens. Bah, c'est comme si on disait, par exemple, à quelqu'un à qui l'on donnerait un bel outillage de mécanicien, tu vois, toutes ces clés, toutes ces pinces, tout ça, n'est-ce pas ? Voilà, tu as tout ça. Ah, puis on les laisserait accrochés sur un mur, et puis on lui dirait, voilà, ça, ce sont les biens. Est-ce que tu vas faire valoir ça? Si tu les laisses accrochés, ils ne font rien du tout, n'est-ce pas? Ces outils-là, ce sont pas les outils qui sont les biens. Les biens, c'est autre chose que l'outillage, et les dons spirituels, c'est un outillage spirituel. Alors, quels sont les biens? Les dons spirituels, donc, ne sont pas une valeur en eux-mêmes, ne sont pas une valeur. Je peux avoir le don de prophétie, prophétie par exemple, si je ne prophétise pas, qu'est-ce que c'est que j'ai? Je n'ai rien, il n'y a pas de... je ne mets pas en valeur, n'est-ce pas? Je ne peux pas mettre mon don en utilisation, mais les dons spirituels ne sont pas par eux-mêmes des valeurs. Ce sont des voies, les voies. Paul dit bien dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 13, que l'amour est une voie par excellence, ce qui veut dire que les dons sont des voies, n'est-ce pas? Des voies et moyens. Ce sont des voies, des moyens de faire valoir les vrais biens du Seigneur, à condition, bien sûr, de se servir des dons et de les exercer. Mettons chaque chose à sa place. Les vrais biens qui sont remis à tous, eh bien, qui sont remis à tous, ce sont la croix, avec ses conséquences libératoires, avec tout ce qui découle d'elle, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus sur la croix. Hein? Quand on dit la croix, il s'agit du sacrifice de Jésus. Alors, avec les conséquences libératoires, les biens, c'est la parole à répandre. Et puis, c'est ce que le Seigneur a désigné sur la croix par cette expression « tout est accompli ». Tout ce qui a été accompli, tout est accompli, tout ça est à faire valoir. Il y a une œuvre faite, une œuvre qui s'appelle rédemption, elle est à faire valoir. Quand le Seigneur Jésus quitte ses disciples, il va être enlevé, c'est le moment de l'ascension, eh bien, il va leur dire, voilà, vous irez et vous prêcherez la parole, la repentance et le pardon des péchés par la foi. Voilà. Ça, c'était évidemment condensé à ce moment-là, mais voilà ce que sont les biens. Nous avons reçu chacun notre part de ces biens, non seulement pour notre propre salut à nous-mêmes, mais pour le répandre à l'extérieur, pour être les témoins du Seigneur et de son œuvre qui est la rédemption. Voilà les biens. La mission que le Seigneur donc donne à tous ses serviteurs consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la repentance et le pardon des péchés. Les dons spirituels, constituent les moyens puissants de faire valoir les biens du Seigneur, faire valoir l'œuvre qui est éternelle, l'œuvre du Seigneur. Les dons s'exercent, sont exercés par l'un, par l'autre, pas dans les mêmes conditions, pas dans les mêmes proportions. Il reste particulier à celui qui les exerce. Chacun a reçu une part. Le Seigneur a distribué les dons comme il a voulu. C'est ce que nous dit la première aux Corinthiens. Mais ce qui se multiplie, là nous voyons que les talents se sont multipliés. 5 sont devenus 10, 2 sont devenus 4. Ce qui se multiplie, c'est pas les dons. Si mon frère a un don, c'est pas ça qui va multiplier, c'est pas le don, il l'a reçu pour lui, pour son travail à lui, pour son service à lui. Mais c'est pas ça qui va multiplier. Ce qui va multiplier, ce sont les âmes qui auront reçu la bonne parole, la parole de vie, et qui seront venues au Seigneur. Voilà ce qui se multiplie. Voilà, par conséquent, comment faire valoir les biens du Seigneur. Paul, par exemple, n'est-ce pas, ne se trompe pas, c'est lui qui nous parle des dons, qui nous instruit sur l'existence des dons spirituels. Mais pourtant, il ne s'y trompe pas. Lui, quant à l'œuvre, quelle est-elle, l'œuvre qu'il a faite ? J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu, voilà l'œuvre que j'ai faite. Voilà comment j'ai multiplié. Et en Actes 12, 24, il nous est dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Voilà les biens, comment on fait valoir les biens du Seigneur. Me dire les biens du Seigneur, c'est les dons spirituels. Alors moi, ça me déconcerte des histoires comme ça. Parce que ça annule le sens, ça annule le sens de cette parabole. Tu as été fidèle en peu de choses, dit le Seigneur. Ah, pourquoi en peu de choses? N'est-ce pas important de répandre la parole de Dieu, Seigneur? Mais enfin, pourraient dire certains grands missionnaires, je suis allé en Afrique, je suis allé en Chine, je suis allé en Asie, je suis allé partout, et puis Seigneur, avec ta parole, j'ai suscité des disciples, des églises se sont constituées, il n'y avait rien quand je suis arrivé, et puis des églises sont nées, se sont développées. Ah, Seigneur, pourquoi me dis-tu que je suis fidèle en peu de choses? Moi, je trouve que c'est beaucoup, ça. Il me semblait que j'avais fait beaucoup de choses. Et bon, je sais bien que c'est par ton esprit, je sais bien que c'est grâce aux dons spirituels que tu m'as donné que j'ai fait ça. Mais enfin, tout de même, j'ai été fidèle en exerçant ces dons spirituels, en répandant ta parole. Pourquoi dis-tu que c'est peu de choses? Ben, d'abord, le Seigneur nous dit que c'est peu de choses par opposition à ce qu'il ajoute. « Je te confierai beaucoup dans un autre temps. »« Je te confierai beaucoup. » Oui, mais l'œuvre réalisée par le serviteur fidèle, elle n'a pu l'être que par la puissance du Saint-Esprit. Si ce fidèle a exercé ses dons spirituels, parce qu'il n'avait pas eu de don du tout, mais il n'aurait rien répandu, n'est-ce pas? Il n'aurait pas eu les moyens. Bon, alors, il a utilisé ses dons spirituels, c'est très bien. Bon, mais il a répandu la parole, il a fait valoir la parole du Seigneur, il a multiplié, multiplié les disciples. Bon, eh bien, mais tout cela, il ne l'a fait que par la puissance du Saint-Esprit qui s'est exercé à travers lui. Voilà, tout simplement. Par la puissance du Saint-Esprit, et ce que le Seigneur retient de tout son travail, de ses fatigues, de ses souffrances, de ses déplacements, tout ce qu'il retient, c'est sa fidélité en action. C'est sa foi agissante par l'amour. C'était là l'école à laquelle était appelé tout bon serviteur. Vous savez, on me disait encore hier, là je ne sais plus à quelle occasion, que des personnes étaient venues à la foi et étaient même entrées dans l'église sans que personne les ait évangélisées. Personne. Ils n'avaient rencontré aucun chrétien, aucun témoin. Et le Saint-Esprit, lui, les a pourtant amenés au Seigneur et les a amenés à l'Église. Mais bien sûr, cela se trouve, peut-être plus que nous ne pensons. Et quand même des gens viennent à l'Église, ne nous disons pas, j'ai amené des âmes, n'est-ce pas? Oh, comme nous devrions nous taire à ce sujet. Laissons ça au Seigneur. Tant mieux si tu as été quelque chose, si tu as été les pieds qui marchaient, la bouche dont la langue s'est agitée, bon, très bien, le cœur qui a laissé s'échapper les effluves de l'amour du Seigneur, tant mieux pour toi. C'était ta fidélité, ça. Et c'est ça que le Seigneur prend en compte, les comptes qu'il te fait rendre, c'est ça, tu as été fidèle. Oui, ça t'a coûté tout ça, c'est bien, c'est fidèle. Mais l'œuvre, rassure-toi, n'est-ce pas, c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a faite, l'œuvre. Non, c'est pas toi. Ta fidélité, Dieu la voulait. Et c'est ça, surtout, qui importe. Tu as été fidèle en peu de choses, c'est bien, j'en ai maintenant la preuve. Ah, c'est une chose établie, tu as été préparé à la fidélité. Eh bien maintenant, alors on va pouvoir te confier vraiment les grands biens, les biens éternels. On va te les confier, tu vas pouvoir régner avec ton Seigneur. Donc c'est la fidélité. C'était l'école à laquelle nous étions appelés. Remarquons que l'éloge du maître est le même à l'égard du serviteur ayant reçu 2 talents qu'à l'égard de celui qui en a reçu 5. En Luc, dans la parabole des mines, tous les serviteurs ont reçu la même somme, une mine. Ils ont reçu tous la même somme. Ils n'ont pas tous le même résultat. Si l'éloge, donc, du Seigneur ne se mesure pas au degré de leur succès, c'est qu'ils se mesurent seulement à leur fidélité dans l'œuvre. Leur fidélité, c'est ça que le Seigneur apprécie, et ça qu'il veut voir. Tu as été fidèle. Et vous savez, si quelqu'un a reçu un don, le don d'un esprit de prière, par exemple, d'un véritable acharnement dans la prière, ça se trouve, heureusement, ça, et qu'il se soit tenu pour des raisons, par exemple, physiques ou d'autres raisons, il se soit tenu dans l'ombre, il n'ait pas, lui, eu l'occasion de voyager, d'aller, de parler. Bon, mais il a prié, il a intercédé, il s'est laissé guider par l'Esprit pour intercéder. Et son intercession a produit des fruits. Eh bien, celui-là, il s'entendra dire aussi, tu as été fidèle en peu de choses, mais tu as été fidèle. Ton Dieu le sait. Ce qui change, ce sont les aptitudes à des responsabilités dans le domaine infiniment plus élevé du royaume à venir. Toi, tu auras le gouvernement de Saint-Ville, toi de Ville. Il y a peut-être quelque chose qui approche d'assez près les fonctions que les membres de l'Église, après résurrection, dans le royaume éternel, auront à exercer. Peut-être, c'est possible que l'un ait le gouvernement de Saint-Ville, l'autre le gouvernement de Deville, enfin, ou des choses approchantes, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui change, évidemment, la fidélité du disciple sera prise en compte et il lui sera confié une part plus ou moins importante des responsabilités à venir. Seulement, les responsabilités à venir, n'allons pas pour autant en inférer ce que font des, laissez-moi dire, des maladroits. Il y a des maladroits dans la pensée. N'allons pas en inférer que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, si vous voulez, hein, il y aura des gens qui seront très hauts, d'autres qui seront au milieu, d'autres qui seront tout à fait en bas. Il y aura des différences sociales, en somme, extrêmement grandes, et que l'un, par conséquent, sera dans la perfection, dans la parfaite sainteté de Dieu, l'autre, il sera dans la sainteté, mais enfin, tout de même, moins éclatante, etc. Ça, c'est faux. Disons encore ceci, prenons quelques minutes. Disons que les paraboles des talents et des mines nous avertissent de 7 choses particulières. Elles nous avertissent d'abord que le retour du Seigneur sera l'heure des comptes à rendre. Des comptes à rendre. Je crois que j'ai déjà cité, il n'y a pas bien longtemps, un verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, et verset 10, je le reprends, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous les membres de l'Église, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien, doit-on le dire, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » C'est-à-dire depuis évidemment sa conversion. Ça ne se comprendrait pas autrement. Chacun, n'est-ce pas, c'est parmi tous les membres de l'Église. Donc, le retour du Seigneur sera l'heure des comptes à rendre. N'oublions pas que nous aurons des comptes à rendre. Hein. Ne disons pas simplement, moi, je suis fille de roi, je suis sauvé, magnifique, ceci, cela. Et tu oublies peut-être que tu vas comparaître devant le Seigneur. Il faudra que tu t'expliques un petit peu. N'est-ce pas, sur le fait que tu as bien tardé à comprendre certaines choses essentielles, sur le fait que tu as encore manifesté un petit peu trop peut-être d'égoïsme ou ceci ou cela. Il faudra que tu t'expliques là-dessus devant le Seigneur, n'oublie pas. Alors, on vaudrait peut-être mieux maintenant faire en sorte que tu rabotes tout ça, n'est-ce pas, avant l'heure de la comparution. Deuxième point. Les activités sont précises. Les activités que le Seigneur nous confie sont précises. C'est pas n'importe quoi. Il faut dire non à des activités choisies par l'homme. Elles sont choisies par Dieu. Tout est engagé. Le tout est accompli veut dire aussi que tout est engagé. La grande affaire est engagée, la grande œuvre est engagée. Voilà ce que signifie aussi le tout est accompli de la croix. Les activités sont précises, il s'agit de faire valoir les biens du Seigneur et nous avons précisé ce qu'étaient ces biens. Les faire valoir, il s'agit de ça et de pas d'autre chose. C'est bien qu'il y aura les œuvres de l'Église quelquefois nécessaires selon l'endroit où l'on se trouve. Si l'on se trouve par exemple en Afrique et qu'il y a beaucoup de malades, d'enfants malades, etc., il faudra bien leur apporter quelques secours, d'accord, mais ça ne doit pas quand même prendre le pas sur l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. D'ailleurs, dans l'œuvre du Seigneur, il y a aussi, n'est-ce pas, la charité à l'égard des pauvres. Paul dit qu'il a bien pris soin de ne pas oublier les pauvres, par exemple. Mais enfin, tout cela, c'est dans la mise en valeur des biens du Seigneur. Mais cela seulement. N'imaginons rien, n'ajoutons rien, et n'offrons pas l'offrande de Caïn. Troisième point, nous retirons de l'étude des paraboles des talents et des mines. Le retour du Seigneur Jésus va paraître tardé. Il va paraître tardé. Et peut-être déjà maintenant, nous disons, comment ça se fait? Il n'est pas encore là, le Seigneur. Comment ça se fait? Il n'est pas encore venu. Il va paraître tardé. Il faudra donc, surtout à la fin, nous dit le Seigneur, parce que la tentation va s'étendre sur le monde entier, alors il faudra du courage. Et il faudra de la persévérance. Attention. Courage, persévérance, parce que le retour va tarder. Il ne s'agira pas de dire, tiens, oh, le Seigneur tarde à venir, on ne sait pas quand il viendra, n'est-ce pas, pour l'instant, installons-nous. Non. Il faudra du courage, de la persévérance. Quatrième point, les disciples vont courir des risques, et notamment le risque de se donner davantage à leurs propres intérêts qu'à l'intérêt du Seigneur ou de l'œuvre du Seigneur. Et je lirai là dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voyez, voilà une recommandation importante. Au lieu de considérer ses propres... Si on considère ses propres intérêts, on va risquer d'être comme le serviteur méchant, paresseux, qui a reçu un talent, qui est allé le cacher, n'a rien fait. Seigneur lui a dit, mais tu aurais pu au moins aller confier mon talent à une banque, ce qui est encore une image, n'est-ce pas, à une banque, et tu l'aurais retiré avec un intérêt. Mais non, il s'est, lui, cantonné à ses propres intérêts. Donc, nous avons cela, et le verset 21 de ce même chapitre aussi, 20, car je n'ai personne, dit l'apôtre Paul, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, la parabole, là, elle nous dit, si tu te mets à chercher tes propres intérêts et que tu laisses de côté ceux de Jésus-Christ, tu vas être comme ce serviteur méchant qui aura sa part avec les infidèles. C'est un avertissement. Cinquième point. Pour les disciples eux-mêmes, le temps de la terre est un banc d'essai de la fidélité. Le temps de la terre est un banc d'essai de la fidélité, donc de l'amour. De l'amour. Fidélité, il faut toujours penser à l'amour. L'amour a besoin de fidélité. Bon, alors, le temps de la terre est un banc d'essai de la fidélité. C'est ça que le Seigneur veut. Toi, tu vois peut-être dans le mouvement, dans l'activité, dans l'activisme. Toi, tu te vois déployer là-dedans, n'est-ce pas? Bon, et puis là-dedans, tu ne manifestes aucune fidélité parce que tu fais les choses qui te plaisent. Tu ne manifestes aucune fidélité. Mais ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Il veut te voir fidèle dans les choses qu'il te demande, lui. Comme l'a dit un pasteur il n'y a pas tellement longtemps, il faisait un retour un petit peu sur lui et l'œuvre de son Église, et il a dit ça un dimanche matin, hein, pas du bien mystère, il a dit, nous avons fait en somme beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de choses que le Seigneur ne nous demandait pas, et nous n'avons pas fait ce qu'il nous demandait. Et j'ai trouvé que cet aveu était le bienvenu. Nous avons fait beaucoup de choses que le Seigneur ne nous demandait pas. Et même, on aurait pu ajouter, et qui déplaisaient au Seigneur. Et nous n'avons pas fait ce qu'il nous demandait. Donc, pour les disciples, je répète, le temps de la terre est un banc d'essai, de la fidélité. Sixième point. Jésus leur révèle le sens de leur existence. Voilà le sens de ton existence, mon ami, nous dit Jésus, le sens de leur existence et l'ampleur des perspectives du siècle à venir. Le sens de ton existence, c'est que tu es part à l'administration des biens éternels. C'est à ça que le Seigneur te destine. Quand tu seras toi-même éternel, tu seras ressuscité, tu ne pourras plus mourir, tu seras engagé dans l'éternité, eh bien, à ce moment-là, le sens de ton existence apparaîtra dans toute sa lumière. Et puis, septième point, tout serviteur ou disciple inactif, gardant pour lui seul ce qu'il a reçu, sera dépossédé. Ce qui est remarquable, c'est que celui, le serviteur méchant et paresseux, le Seigneur dit, ôtez-lui ce qu'il a. Il avait un talent, il avait une mine, ôtez-lui cela, et donnez cela à celui qui en a le plus. Ça, c'est extraordinaire. Ôtez, et puis quand vous lui avez tout ôté, n'est-ce pas, alors là, celui-là, eh bien, il ne pourra même plus entrevoir que la croix s'est dressée pour lui, que ses péchés étaient pardonnés, que le Seigneur l'avait régénéré. Tout ça va va s'en aller, va partir en vanité, tout ça va s'effacer. Ôtez-lui tout ça. Il ne verra plus rien. Il est bon pour l'enfer. Disons les choses comme elles sont enseignées par Jésus. Il est bon pour l'enfer. Il sera jeté dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est pas le ciel, ça. Enfin, voilà. Voilà, chers amis, en somme, des choses qu'il faut savoir sur la fidélité, n'est-ce pas ? Dieu nous demande la fidélité. Il y a un banc d'essai. Nous sommes tous à ce banc d'essai. Attention, le Seigneur nous observe. Mais si nous sommes fidèles, vraiment, et si nous pensons que c'est ça que le Seigneur veut voir, alors nous serons heureux. Et le Seigneur, lui, nous donnera notre part, ou la part qu'il nous réserve, des biens éternels. Amen.